corps.
Tiens. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau format où, comme le nom l'indique, nous allons faire le procès des années 90 de façon préventive, pour éviter qu'il y ait une vague de nostalgie abusive qui se déclenche, même si c'est déjà trop tard probablement. Nous n'allons pas ausculter Jurassic Park ou des trucs comme ça, on va vraiment se concentrer sur des œuvres dans le jus des années 90. Nous allons essayer de savoir ce qu'est le jus des années 90, et pour ce faire, je suis avec Lelo Jimmy Battista. Comment ça va ?
Salut, ça va très bien.
Tu étais présent sur l'épisode consacré à Greg Araki, tu étais présent sur l'épisode consacré à Seinfeld, sur celui consacré à Bret Easton Ellis, tu es, dans le jargon des chaînes info continue, ce qu'on appelle un expert.
Ouais. Bah, les années 90, ils ont commencé, j'avais 15 ans, elles sont finies à 25, donc en gros, j'étais bien dans le jus, on va dire. Mais dans voilà. J'étais un vrai jeune des années 90. J'ai grandi dans les années 80 et j'ai appris la vie d'adulte dans les années 90.
Mon Dieu. Bah moi, c'était entre 10 et 20 ans, les années 90, donc je sais. Je sais ce qui s'est passé, j'étais là. Voilà. Concrètement, nous allons commencer par une œuvre tellement années 90, tellement violente au niveau des années 90. C'est un film de 1995 réalisé par Ian Softley qui s'appelle Hackers, avec Johnny Lee Miller, qu'on connaît surtout, en fait, pour sa performance dans le film Trainspotting, dans le rôle de Sick Boy. Après, bon, il a eu une autre carrière quand même, la télévision notamment, dans la série Elementary. Et puis, c'est le premier rôle d'Angelina Jolie. Et puis, plein d'autres choses que nous allons découvrir ensemble. Ian Softley, pour aller très rapidement sur la carrière de ce garçon, c'est un cinéaste britannique qui a surfé sur la vague d'Danny Boyle, justement, qui a sorti en 1994 un premier long métrage qui s'appelle Backbeat, 5 garçons dans le vent, pour le titre français intégral, qui se consacrait à l'histoire du cinquième Beatles, Stuart Sutcliffe, mort très jeune, trop jeune. Par la suite, il a été cornaqué par Hollywood, il a eu une petite carrière, il a fait ce film, donc Hackers, il a fait The Wings of Dove, il a fait un film, je pense que son film le plus connu, c'est La Porte des Secrets, Skeleton Key, qu'il a fait un petit peu plus tard, qui est connu pour être une espèce de Get Out avant l'heure et inversé, et... borderline raciste, je sais pas, je pose la question. On verra du
coup. À revoir, ça peut être un autre film à analyser un peu plus tard.
Voilà, pour une autre décennie pour le coup. Mais voilà, et qui a fait Képax aussi. J'ai revu Képax avec Kevin Spacey et quel film étrange Képax.
Ça sera vraiment, oui, voilà, et ça sera, il faudra penser tout de suite à une autre longue série sur les années 2000 qui pourrait être très 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 douloureuse aussi, quoi.
Ah bah oui, complètement. On fera des audits. On fera des audits dans tous les sens, de toute façon, c'est le thème. Alors, pour revenir à Hackers, toi, comment tu as découvert le film ? Parce que tu le connaissais avant, tu es un pervers, un expert pervers.
Bah, un vrai expert. En fait, il faut savoir que Hackers, effectivement, s'il est sorti aux États-Unis en 95, il n'a pas eu de sortie en salle en France. Ici, il est sorti directement en vidéo en 1997 dans la collection Warner Movie Time. Et avec une accroche qui annonçait ni plus ni moins le film Cybertechno. Donc on appréciera l'aplomb, la hardiesse, voire le bravado.
Tout à fait.
Et à ce moment-là, en fait, j'avais déjà entendu parler du film, parce que je m'étais retrouvé plusieurs fois sur la route de sa très subtile campagne marketing. En fait, Hackers n'est pas sorti en salle en France, mais il est sorti au Royaume-Uni en mai 96, et mai 96, c'est pas n'importe quand, c'est 3 mois après la sortie anglaise de Trainspotting, qui est sorti là-bas, il est sorti en février 96, chez nous il est sorti un peu plus tard. Ce qui représentait quand même un atout non négligeable pour Hackers à deux niveaux au moins, c'est que primo à ce stade du championnat, Johnny Lee Miller était super identifié, quoi, parce qu'il faisait partie effectivement des acteurs principaux de Trainspotting, ce qui n'était pas du tout le cas au moment de la sortie de Hackers aux USA, parce qu'il faut rappeler que, comme tu l'as dit, Hackers pour lui et Angelina Jolie, c'était un peu leur premier rôle d'envergure. Johnny Lee Miller, il avait effectivement joué dans pas mal de téléfilms et de séries télé, mais c'était son premier vrai film de cinéma, et Angelina Jolie, on l'avait vu juste dans des clips. Et elle était apparue juste très très jeune et totalement anonyme dans deux films, dont un film de Al Ashby, ce qui est assez étonnant. Mais, et donc voilà. Et le deuxième truc, c'est que les équipes marketing, elles ont appris avec Trainspotting un truc super important, même s'il va pas mal nous pourrir la vie dans les années qui vont suivre, c'est qu'on peut en fait vendre un film culte clé en main. Ouais. C'est-à-dire que jusque-là, un film culte, il le devenait grâce à son public. Un film culte, dans le sens précis du terme, dans le sens que dans lequel je l'évoque, c'est un film qui est en gros vu par trois pelés, mais ces trois pelés, ils vont vivre une expérience transformatrice, quoi. C'est un peu comme ce truc qu'on dit souvent à propos du Velvet Underground, c'est que genre peu de gens les ont vus sur scène, mais tous ont formé un groupe. Et c'est un peu la même idée. Voilà. Mais là, avec Trainspotting, pour la première fois, on te vend un film qui est déjà culte avant même sa sortie. Parce que c'est une adaptation d'Irvine Welsh, parce qu'il y a toute une esthétique, une communication hyper efficace autour du film. Parce que c'est un sujet un peu sulfureux, un peu edgy. Les acteurs sont tous jeunes, beaux. Il y a une bande originale aussi qui est extrêmement bien foutue, parce qu'on a d'un côté la musique des personnages junkies, toute la musique des années 70, Iggy Pop, Lou Reed, etc. Celle des jeunes des années 90 qui était représentée dans le film par, je me souviens plus son nom, Kitty McDonald, je crois que c'est ça.
Ouais.
Qui est en gros la musique électronique de l'époque, Underworld, Left Field, etc. Et au milieu, ils avaient mis tout un tas de groupes, Blur, Elastica, Slipper, Pulp, parce que le film sortait aussi au point culminant de la Britpop, à un moment où tout ce qui se passe un peu au Royaume-Uni est forcément cool, quoi. Donc sans s'en rendre compte, parce qu'on n'a pas encore l'habitude à ce moment-là, on se fait tous bien baiser par ce packaging de gros malins. Et pour hackers, en fait, les Anglais tentent à peu près la même chose, quoi. Moi, Trainspotting, j'avais découvert le film dans la presse musicale anglaise des mois avant la sortie, et ils annonçaient déjà, il y avait dans des papiers, que c'était le film anglais de la décennie, quoi. Et, ouais. Et hackers, c'était pareil, sauf que là, c'était pas des articles, mais des pubs où, en gros, on te vendait le film sur deux points. Le premier, c'était qu'il y a Johnny Miller, donc en gros, c'est Trainspotting avec des ordinateurs. Et le deuxième, c'était la bande-son aussi, parce que c'est quand même une bande-son qui est assez impressionnante pour l'époque, ouais. Où il y a à peu près tous les gros noms de la scène techno et Big Beat, ce qu'on appelait Big Beat à l'époque.
Bah, Left Field Underworld, notamment.
Voilà, Left Field Underworld, qui était déjà dans Trainspotting, aussi Prodigy, Orbital, enfin des trucs vraiment très très gros. Et du coup, c'est intriguant, parce que d'un côté, c'était super inattendu et assez impressionnant qu'un film comme ça affiche une BO avec toutes les têtes d'affiche d'un genre musical qui était contemporain, et de l'autre truc qui rendait le film intriguant, c'est que dès l'affiche, dès la pub, ça avait l'air, mais alors complètement bidon. tout était vraiment, enfin voilà, trop clean, trop étudié, trop balourd, et puis en fait, les hackers, c'était déjà un sujet un peu tarte à la crème. Faut rappeler que là, on est dans les années où on commence tout juste à servir d'Internet, et à ce moment-là, on s'en sert essentiellement dans des lieux publics, enfin, c'est genre les bibliothèques, des trucs comme ça. Il y a encore très peu de gens qui ont Internet chez eux, en tout cas en France, mais c'est déjà un sujet de fascination. Les hackers, ça remonte déjà un peu avant, donc ça fait des années qu'on en parle un peu, et c'est un sujet qui est souvent traité, et maltraité, à la télé et dans la presse, parce qu'il y a un côté un peu voilà, flashy, sexy, rebelle, moderne, un peu nébuleux aussi, comme ça permet un peu plein d'approximations. Et puis en plus, si on avait, comme moi, en 95, je vais avoir 19-20, à l'époque, on se faisait déjà une idée du truc, parce qu'on avait vu à peu près 400 fois un film qui avait été multidiffusé à la télé durant la deuxième moitié des années 80, qui est War Games de John Badham.
Évidemment.
Qui est un espèce de truc de proto-hacking où Matthew Broderick déclenche une guerre thermonucléaire totale en s'infiltrant sur des ordinateurs top secret des forces armées américaines. Parenthèse, j'ai revu le film il y a deux mois, ça a très 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 mal vieilli, et pas que pour des raisons techniques. Hein. Je me suis même demandé comment est-ce qu'on avait pu adorer ce film à ce point. Et la même année où Hacker sort aux USA, en 95, il y a un autre film sur le même sujet avec un traitement beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus adulte, mais tout aussi mongolito, voire un peu plus, c'est Tracks sur Internet, avec Sandra Bullock. Et tout ça fait donc qu'en 97, sort en France en vidéo Hacker, donc projet, comme je disais, intrigant, mais quand même très hasardeux, que moi je vais finir par voir l'année suivante, en 98, dans un contexte un peu particulier. À l'époque, moi j'étais étudiant à Nancy, et j'allais dans un vidéoclub dont j'ai totalement oublié le nom, parce qu'en fait, nous, on l'appelait Big Choice Vidéo, en référence à une scène dans Clerks, où Randall ferme son vidéoclub pour aller louer un film dans un autre vidéoclub, qui est beaucoup plus grand et qui a tous les bons films, et qui s'appelle Big Choice Vidéo dans Clerks. Donc en fait, on l'avait renommé le vidéoclub comme ça, parce qu'en fait, il était extrêmement loin de chez tout le monde. C'est-à-dire qu'on avait, tous au moins 3 ou 4 vidéoclubs entre celui-là et chez nous. Mais par contre, on allait toujours à celui-là parce qu'il avait le meilleur choix. Il avait notamment des sections import avec des films pas sortis en France, des éditions anglaises, américaines, etc. Et en 98, il se passe un truc, c'est qu'il y a la Coupe du Monde de foot.
Oui.
Et comme à l'époque, c'est encore publiquement acceptable de pas suivre le foot parce que la France ne gagne pas, Beachy Video, ils font une promo pendant la Coupe du Monde pour les gens qui n'ont pas envie de regarder les matchs. En gros, pour un film loué, tu avais un film offert. Et donc, j'en ai profité pour voir tout un tas de merde que j'aurais jamais loué autrement parce que c'était quand même... Vidéo Club, c'était pas la teuf, quoi. Enfin, je veux dire, il fallait avoir des sous sur sa carte, il fallait que les films soient dispo. Et donc, pour te dire, là en fait, comme il y avait des matchs, quasiment tous les films étaient dispo, il y avait beaucoup de choix. Et pour te dire, le premier film gratuit que j'ai pris, je m'en souviens encore parfaitement parce que c'était une copine et un pote qui m'avait tanné pour le prendre, c'était 4 garçons pleins d'avenir.
Ah, le fameux.
Ouais, qui était, comme prévu, une merde phénoménale. Même si je me souviens avoir énormément ri, vraiment, à un gag vers la fin où Patrick Sébastien apparaît de manière super incongrue. Enfin, il apparaît tout au long du film, mais il apparaît vraiment une scène finale où tu l'attends plus, quoi.
Tu sais qu'il y a débat hein, sur ce film, moi je l'ai jamais vu, mais...
J'ai vu sur les réseaux sociaux que des gens l'adoraient, enfin je veux dire, le considéraient comme limite un classique.
On a déjà un prochain épisode, hein, du coup.
Ouais, voilà. Bah, en fait, je pense que c'est un truc typiquement d'âge. Enfin, moi j'étais... Donc là, 98, j'avais déjà 22. Ouais. C'est normal que je tombe pas dans le panneau, on va dire. et donc, bref, à cœur, je l'ai loué pendant cette promo, donc pendant la Coupe du Monde. Et ça a dû être le troisième ou quatrième film que j'ai pris. Et j'ai vraiment pas été déçu parce que c'était tout ce que j'avais imaginé avec la pub que j'avais vu 15 fois dans la presse anglaise avant. C'est une espèce de moment de cyber cringe, quoi. Assez ahurissant et en même temps avec un potentiel d'attachement et de revisionnage qui est assez élevé.
Ouais.
Parce que clairement, la première fois que tu vois, tu crois tellement pas que tu as forcément envie d'y revenir. Enfin, je veux dire, justement, tu disais tout à l'heure, on avait fait une émission sur Greg Araki il y a quelques années. Je t'avais dit qu'une des raisons pour lesquelles moi j'aime autant ses films, en tout cas toute la vague des premiers films, la première décennie qu'il a fait, c'est parce qu'ils étaient finalement assez proches de la réalité que je vivais au moment où je les ai vus, donc dans les années 90. Et avec évidemment une touche un peu exubérante et surnaturelle en plus, mais sinon je trouvais dans le film assez réaliste, quoi. Et
tu te battais pas contre des néo-nazis et des extraterrestres.
Voilà, oui, voilà. Il y a ces petits détails qui n'ont effectivement été des petits ajouts.
Il faut quand même préciser que Hackers, c'est très drôle à voir avec le regard de 2023 parce que c'est très daté. Voilà, c'est des gens qui vont sur Internet, qui piratent des cabines téléphoniques, qui utilisent des disquettes, enfin que des trucs très très exotiques en fait hein, pour maintenant. Mais il faut savoir que même si la fiche IMDB n'arrête pas de te dire ça c'est une référence à tel truc de hacker, ça c'est machin, il y a plein de codes que les vrais reconnaissent, les vrais savent, non. Déjà, à l'époque, c'était pas possible.
Bon, après, moi, j'y connaissais pas forcément grand-chose, mais ça faisait bidon, déjà, tu vois. Et ouais. En plus, il y avait cette vibe, c'est-à-dire que ça faisait vraiment le film commandé par, tu imagines, une espèce de figure type commercial, un peu largué de 55 ans, tu vois. Même si j'imagine que c'était des gens beaucoup plus jeunes, en vérité. Mais en fait, c'était vraiment une espèce d'imagination de la jeunesse de ces années-là, qui était pas si mauvaise dans le sens, parce qu'en fait, il y a à peu près tous les bons éléments. Certains même assez justes, je trouve, même dans les looks et tout ça. Mais je trouve que c'est balancé dans le désordre, à l'envers, n'importe comment. C'est-à-dire que déjà, le film, il se passe dans un lycée. Vraiment, c'est le lycée lambda de tous les films américains, tous les teen movies, quoi. Et tu vois des gamins, comme dans ces lycées, comme dans les vrais lycées. C'est-à-dire, les gamins, ils sont pas hyper loupés. Ils sont tous sapés, un peu de base, un peu pâteaux. Par contre, Johnny Lee Miller, Angelina Jolie et... Oh mon Dieu, Matthew Lillard, mais lui,
Trigger
on
Warning,
fera
Matthew Lillard.
On fera un encart spécial sur son cas plus tard, je pense. Eux, non seulement ils ont l'air d'avoir 10 ans de plus que tout le monde.
Juste 3 mots pour décrire son personnage, c'est Techno Rasta Blanc.
Oui, voilà, Techno Rasta Blanc.
Voilà. Joué par Matthew Lillard. Je laisse infuser le truc.
Let that sink in, comme on dit. Quoi. En fait, ils ont déjà l'air d'avoir 10 ans de plus que tout le monde dans le lycée. En plus, par passage, ils ont du retard, hein, parce qu'on capte au début du film que Johnny Miller est censé avoir 19 ans. Hein, donc, lycée 19 ans, normalement, t'es sorti, ou t'es sur le point 2. Ils ont des looks qui les font vraiment ressortir dans le décor, mais comme des c'est comme des fraises tagada dans un pot d'eau.
En fait, on dirait 4-5 flics infiltrés, voilà, à qui personne ne parle, du coup, tu vois.
Ils sont que entre eux, et en plus, ils se détestent plus ou moins, donc c'est un peu étrange. Et ils ont des looks à mi-chemin entre, je sais pas, le manga, il y a un côté remake fauché de Tron aussi, et puis, le, pour Matthew Lillard, en tout cas, le post-apo italien, quoi. Et pourquoi ça, en fait, effectivement, on comprend pas, parce que c'est comme ça, ce sont des hackers. Et bref, il y a une vibe très, très how do you do fellow kids, tu vois, ce même avec Steve Buscemi. Qui porte un skate sur le dos et une casquette à l'envers. Cette vibe-là, elle est là dans tout le film, elle est là dans les premières images, ça va aller crescendo, crescendo, jusqu'à vraiment le n'importe quoi généralisé, avec pour moi en point d'orgue, l'apparition au bout d'environ, je crois que ça arrive au bout d'environ 30 minutes, du méchant du film, oui. Qui est la peste.
Alors, faut dire quand même qu'ils ont tous des pseudos.
Ah oui, c'est vrai, ah oui, ah, c'est vrai que les voilà, pseudos, et... c'est quand même du fait.
Johnny Lee Miller, c'est Crash Override. Angelina Jolie, c'est Acid Burn. Voilà, enfin, c'est très... On est dans un jus. Hein. Vraiment, ah oui. On est dans un jus d'époque, quoi.
Bah, en fait, le film ressemble un peu, comment dire, aux pubs que tu voyais dans les magazines de l'époque, tu vois. C'est oui. Très flashy, très machin. Enfin, il y a aucun moment où on se dit, non, mais il faut quand même que ce soit un peu ancré dans le réel. Tout est, voilà.
C'est le chaînon manquant entre les compilations Dance Machine et les compilations Thunderdome, en fait.
Ouais, voilà. Il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de cette vibe-là, quoi. Et donc, voilà. Et donc, voilà. Arrive le méchant du film. La peste, donc. Interprété par à peu près le dernier type auquel on aurait pensé pour interpréter un rôle de méchant qui s'appelle La Peste. C'est Fisher Stevens. Alors, Fisher Stevens, vous voyez forcément qui c'est. C'est ce type... une espèce de physique de petit bonhomme dessiné par un enfant de 6 ans, croisé avec, je sais pas, un poulet.
Et qui est toujours actif, hein, qu'on a vu récemment dans la série Succession.
Bah, on l'a vu dans Succession il n'y a pas longtemps. Sinon, il joue dans beaucoup de Wes Anderson.
Ouais.
On l'a vu dans les plus vieux trucs, on a pu le voir dans Le Mystère von Bülow, il y a quoi, Super Mario Bros aussi, dans ce genre.
Bah, il y a une performance emblématique des années 80, pour le coup, les années 90, oui. Rien à faire là-dedans. Il a un rôle dans Short Circuit, ouais. Ouais. Appelez-moi Johnny 5.
Sa fameuse suite, Appelez-moi Johnny 5.
Voilà. Et il joue un personnage, il joue Apu, quoi, dans les Simpsons, grosso modo. Et c'est un problème.
C'est un vrai gros problème. Et donc ouais, en fait le son perso dans le film il est super raccord avec tout le reste, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée que se fait, on va dire, on gardait cette image du producteur de 55 ans à côté de la plaque, mais d'un méchant de la tech edgy et cool de 1995, quoi. C'est-à-dire un mec avec une barbichette, les cheveux mi-longs, un manteau en fourrure et un skate.
Donc, Elon Musk Origins.
Oui, ouais, Elon Musk Origins. À ce niveau d'ailleurs, pour moi, ce qui reste vraiment... la scène un peu culte du film, quoi. C'est une scène où Johnny Lee Miller en fait doit remettre à Fisher Stevens une disquette sur laquelle il y a genre un accès à une sorte de Valhalla numérique, hein. Tu comprends absolument rien du tout, mais c'est la disquette qui ouvre l'accès à tout. Et donc Johnny Lee Miller se retrouve à attendre deux nuits, hein, entre des vapeurs d'égout, son contact. Et là, tu as une voiture qui arrive. Tu dis bon, Fisher Stevens est dedans. Il va baisser la vitre et avoir un air menaçant. Mais en fait, non. Il est accroché à la voiture en skate derrière et il chope la disquette en plein vol avant de disparaître dans la nuit, quoi. Tel un renard maléfique en skate. Renard maléfique en skate. Et vraiment, je me souvenais plus de cette scène. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai dû me la repasser immédiatement une deuxième fois pour être sûr que j'avais bien vu ce que j'avais vu. Et cette sensation, elle résume, je trouve, assez bien une bonne partie du film, si ce n'est tout le film, à commencer par, on y revient, là, les apparitions de Matthew Lillard, dont c'est le rôle le plus foncièrement Matthew Lillard de toute sa carrière, je pense.
Alors, Matthew Lillard, quand même, pour ceux qui ne visualisent pas, c'est le... Peut-on spoiler Scream ? On l'a déjà fait, de toute façon. C'est le deuxième tueur de Scream, le premier du nom, c'est Stu. Dans Scream, c'est un personnage qui tire la langue beaucoup et qui est très... bah, dans l'énergie de Matthew Lillard de cette époque, en fait, qui était vraiment le foufou, le zinzin.
Son jeu, c'est vraiment plisser les yeux et tirer la langue. Hein. C'est,
voilà.
C'est deux modes, quoi.
Il y a un autre film qu'on devrait chroniquer qui s'appelle Cursus Fatal, où il est très qui est incroyable.
Je m'en souviens extrêmement bien pour une bonne raison. Je crois que c'est le seul film de toute ma vie, hors comment dire, projection de presse un peu privée, machin, que j'ai vu dans une salle où j'étais seul. Parce qu'à un moment, à l'époque, quand j'étais étudiant, j'avais une carte un peu l'équivalent de carte UGC, mais pour cinéma indépendant de la ville. Et le cinéma indépendant de la ville passait Cursus Fatal. J'ai dit, bon, un après-midi de désœuvrement, comme t'en as beaucoup à la fac, j'y suis allé. Et ça m'a explosé, quoi. Enfin, à tous les niveaux, parce que déjà, j'étais seul dans la salle, et en plus, ce qu'il y a dans le film, c'est fantastique. On en reparlera.
et donc oui, acteur paroxystique quand même, hein, et qui est resté vraiment dans les codes de cette époque-là, qui a fait Sammy dans les deux films Scooby-Doo, qui a fait une apparition dans Twin Peaks The Return, complètement impromptu.
Ça, c'était impressionnant, ça. C'était vraiment le cadeau, le easter egg
Il y avait ça et Tom Sizemore dans Twin Peaks The Return. Mais oui, c'est, oui. C'est un autre débat. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Et Matthew Lillard, ouais, c'était cet acteur qui était cool, qui était edgy et qui était insupportable en vrai, en fait.
Mais en fait, c'est, pour le coup, bah alors ça aussi, c'est peut-être un jouet avec l'âge, mais moi, c'était vraiment un acteur que je trouvais abominable. Mais dès la, je crois que forcément, je l'ai vu dans Scream avant. C'est sorti en 96 et ou 90, début 97, je sais plus. Je supportais déjà pas ce mec, quoi. C'était déjà, j'étais allergique. Et quand je l'ai revu dans la cœur, j'étais genre, oh, cadeau du ciel. Au milieu de cette merde, il y a cet abruti, quoi. Enfin, c'est fantastique. Et son rôle, mais c'est terrifiant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où il apparaît où ça veut dire quelque chose, quoi. Enfin...
Et juste la fin, en fait, où c'est lui qui
pirate,
grâce à tous les hackers de la planète, il arrive à pirater tous les réseaux satellites mondiaux et apparaître sur toutes les écrans de télévision et expliquer la grande machination et faire libérer ses camarades. Ouais. La grande machination, en l'occurrence, qui n'a aucun sens.
Ah oui,
c'est-à-dire qu'on a la peste qui fait échouer des bateaux des bateaux pétroliers, quoi, pour cacher le fait qu'ils piratent de l'argent. Alors, un montant incroyable, 25 millions de dollars. Non, à l'époque, c'était bien.
Mais, c'était pas mal.
Ouais, c'était pas mal. Mais, non, mais c'est rigolo, tu vois. Ça m'a vraiment fait penser à Austin Powers, 1 million de dollars.
La chaîne d'événements, je me dis, genre, j'imagine les mecs, tu sais, en train de faire le scénario et se dire... Peut-être le truc des tankers et tout, c'est pas mal ça. C'est très difficile à se représenter en plus encore aujourd'hui. Tu te dis mais qu'est-ce que ça vient foutre là, quoi.
Ouais.
Y a aussi le personnage, alors dans une autre catégorie, il y a le personnage joué par Jesse Bradford qui est complètement lunaire. C'est-à-dire, déjà, il a l'air d'avoir 10 ans de moins que tout le monde. Lui, il a l'air d'un vrai lycéen un peu à la rue. Il a un appareil dentaire. C'est un peu le Nasbrock du groupe. En plus, le mec qui se fait un peu bizuter, un peu. Il débute dans le hacking, et là encore, idée de producteur de 55 ans à la rue, il a des comportements de jeune qui n'existent pas, ni en 95, ni aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va sous la douche avec ses écouteurs, et il y a un moment où il fume 2 clopes en même temps. Il y a une scène dans un club, dans un bar, je sais plus, là, où tu le vois en train de discuter avec les autres, et il a une clope dans chaque main. Et c'est pas un problème de raccord, hein. Il a vraiment une clope dans chaque main. Donc tu te dis... Pourquoi pas, quoi. C'est vraiment une espèce d'excentricité auquel je ne m'attendais pas vraiment, quoi. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que surtout quand en revoyant le film, je me suis rendu compte que c'était vraiment... hormis pour cette histoire d'essence complètement dingue, ils ne sont pas vraiment foulés, parce que c'est vraiment une décalque de plein d'autres trucs du même genre, et vraiment de trucs un peu archétypaux. Enfin, moi, je trouve qu'il y avait beaucoup de choses empruntées un peu meubles de volume.
Carrément, c'est ce que j'allais dire.
Notamment la fameuse... Enfin, Johnny Miller qui se fait arrêter, sa fameuse phrase de « pirater la planète ».
Avec Matthew Lillard, avec ses dreads de rasta blond qui font pirater la planète! On le voit, mon Dieu. On l'a vu dans la VF d'époque aussi, qui est très bien.
Oui.
Qui est super, la VF d'époque.
Ouais, faut préciser qu'en VF d'époque, ça a quand même un charme. Ça a une valeur ajoutée, quoi, comme on dit.
Ouais. Non, carrément. Tu sens qu'ils ont, ils se sont pas fait chier pour traduire tous les termes.
Ah oui, c'est très grossier.
Il y a un lâcher-prise.
c'est assez dingue, quoi. Enfin, mais j'adore. Enfin, mais dès le début, ce qui est fou, c'est que il y a une scène où j'étais mort de rire. C'est quand Johnny Lee Miller arrive dans le lycée. Donc en gros, il arrive dans un nouveau lycée où personne ne le connaît, etc. Un peu archétype aussi de ce genre de film. Et la première personne à qui il adresse la parole, c'est un type qui est au téléphone, dans une cabine téléphonique, en train de parler en espagnol. Et donc tu dis, non seulement tu t'adresses à un type qui est occupé, alors qu'il y a 10 000 personnes autour de toi qui ne sont pas occupées, et qui en plus est en train de parler dans une langue étrangère, alors que tout le monde a l'air de parler anglais. Et en fait, le mec lui répond, genre, mais ça se voit pas que je suis en train de téléphoner au Venezuela. Et j'étais là, mais dans quoi on s'embarque, en fait, quoi.
Ouais, voilà. Il y a la VF d'époque. Il y a tous ces personnages complètement zumbesques en décorum. Il y a les décors techno-futuristes de skatepark. Il y a des représentations du cyberspace. Il y a cette utilisation des nouvelles technologies comme un truc. Hey, c'est le futur, bébé. Demain, c'est le cyberpunk, c'est William Gibson. Putain, les mots de passe. Le truc sur les mots de passe aussi, c'est magnifique.
Ah oui, ça extrêmement mal vu. Bon, après, il faut se rappeler, voilà, comme je disais au début, c'est que Internet à l'époque, c'était vrai. Enfin, aux États-Unis, c'est là que ça commençait à arriver, mais chez nous, vraiment, le Internet à la maison, c'est vraiment la fin des années 90, et Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire sans limite de connexion, etc., et puis avec des vitesses un peu... la DSL, quoi. Ça, c'est vraiment le début des années 2000, hein, donc... parce que je vois souvent... Il y a un truc un peu qui est marrant, qui peut être marrant dans cette série-là aussi, c'est de rappeler les espèces de distorsions comme ça qui a qui est, parce que tu vois en c'était quoi c'était l'an dernier où les gens avaient fêté l'anniversaire de la création d'Internet.
Ouais.
Et en fait j'étais là ouais sauf qu'en fait en 92 il y avait personne de normal qui était sur Internet, tu vois.
Ouais.
Il y avait que des gens vraiment dans le méga milieu, c'était pas du tout un truc public, c'est vraiment progressif quoi.
Et c'était les gens qui pirataient les cabines téléphoniques, quoi.
Voilà, et oui, voilà, avec leur Walkman.
Voilà. Et t'avais, t'as vraiment un côté MTV aussi, hein, quand même.
Oui.
Mais t'as vraiment cette esthétique-là dans la façon dont les gars se mettent en scène, comme vraiment, enfin, tout le monde essaye de ressembler au chanteur de Spring, grosso modo, avec les pics sur la tête. Quand ils se filment avec des, enfin, t'as ce couple de hackers un peu bizarre là aussi qu'on voit vers la fin et qui diligente tous les hackers de la planète pour faire l'offensive finale. Enfin, la façon dont ils sont captés, l'énergie, les décors, etc. C'est vraiment ça, quoi.
Bah, c'est vraiment ça. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est, tu parlais MTV, effectivement MTV, et en fait si tu ouvres n'importe quel magazine un peu pour jeunes sorti, enfin, paru entre 95 et on va dire 97-18, c'est vraiment ces images là, c'est vraiment cette esthétique là quoi. C'est pour ça que ça me fait vraiment, enfin voilà, j'ai l'impression de voir une page de pub qui dure presque 2 heures. C'est assez impressionnant. La scène finale ressemble à une pub pour parfum de l'époque, tu vois.
Ouais.
En fait c'est marrant parce que tu m'as dit tiens revoyons Hackers. Et sur le coup, je me suis dit, oh là là, la purge et tout. Et en fait, j'avais d'autres films à regarder. Hein. J'avais une pile de films à regarder. Et c'est vraiment celui que j'ai eu le plus envie de regarder instinctivement. En me disant, genre, oh, putain, ça va être tellement horrible. Et je l'ai lancé. Et je me suis dit, putain, mais en fait, ça, c'est comme je disais au début, ça a une capacité de revisionnage assez intense. Quoi, parce qu'il y a tellement de détails où vraiment tu te frappes la tête contre les coins de table. Quoi. Tu te dis pourquoi ils ont fait ça, même à l'époque c'était déjà plus possible. Et du coup je me suis amusé un peu à noter aussi à relever les scènes super archétypales.
Ah oh bah alors là
de ce genre de film, parce qu'en fait il y en a tellement, je me suis dit il faut que je les note, parce que je me suis dit en plus ça pourra nous servir de bingo plus tard éventuellement, tu vois. Viens, on a quand même alors attends, alors, j'en ai sans doute oublié, hein, parce que j'ai pas tout noté non plus, mais on a quand même le prologue en forme de flashback traumatique. ça y est. On a la scène.
Oui.
Alors ça a l'air de rien, mais c'est un gros truc. C'est la scène où le personnage principal prend l'avion tout seul avec des écouteurs. Ça revient très 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 souvent dans ce genre de film. On a la scène. Alors ça j'ai adoré la scène où le héros travaille dans sa chambre avec son bureau avec des lunettes noires. Parce que quand Johnny Lee Miller fait du hacking chez lui, il est en mode hacker. Il a des lunettes noires. Quoi. Il y a les typos informatiques totalement impossibles, genre comme X100MS en jaune en police 174. Tu vois, je dis mais ah oui c'est d'accord Internet. Ah il y a ce truc que j'adore, c'est le perso qui dit à un moment va te faire mettre. Ou ça marche également avec « Je t'emmerde ». Et là, il y a un beau « Va te faire mettre » de Johnny Miller au début,
ouais.
qui fait virtuellement à une chaîne du câble. C'est fantastique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bah oui, le classique personnage principal masculin et personnage principal féminin qui se détestent d'instinct au premier regard et qui finiront finalement fatalement par coucher ensemble tôt ou tard. On a le personnage de pote débile avec casquette à l'envers. On a le personnage de pote cramé totalement ingérable qui fait des trucs genre tirer la langue, citer George Orwell et se pincer les tétons. Donc c'est Matthew Lillard, hein, ce qu'aurait pas suivi.
Évidemment.
Ce qu'aurait pas pris des notes.
À pincer les tétons, c'était assez évident. Hein,
mais... Ah oui, voilà, ça c'était... Mais je me suis dit, quand j'ai vu, c'était à la fois effaré en me disant genre, en même temps, quel est le move le plus Matthew Lillard du monde, c'est ça. Donc, on a aussi évidemment les remarques misogynes vite fait, sympa.
Mais le personnage d'Angelina Jolie, une catastrophe.
Bah déjà, aujourd'hui, ce serait, il y a vraiment un côté, c'est la seule fille du groupe. En plus, ils l'ont bien surligné parce qu'elle est fille de d'autrice à succès féministe.
Oui.
Ce qui l'empêche absolument pas de faire des gros stuff chez elle où elle invite tous les pires connards du monde.
T'as cette scène qui est absolument merveilleuse à voir en 2023 où il y a une grosse fête chez elle et où t'as Jesse Bradford qui dit à Johnny Lee Miller mais sa mère écrit, elle se fait beaucoup d'argent en écrivant des recueils féministes sur les hommes amibes soumis.
Ah oh putain, je l'avais.
Et t'as Johnny Lee Miller qui lui dit ah mais tout s'explique.
Oh putain.
Absolument fabuleux.
Je l'avais raté celle-là. Moi, j'étais resté sur les plus évidentes du style quand elle est en train de jouer un jeu vidéo et elle a un super score et lui lui fait pas mal pour une fille.
Et forcément, il la bat derrière.
Ouais, ah bah oui, il la bat à plate couture quoi. Puis elle repart pas contente du tout. D'ailleurs, elle repart elle va voir un gars, elle lui roule une pelle et elle part en moto. Ça aussi, c'est une scène archétypale. Roulage de pelle suivi de départ en moto. Ah, il y a aussi une bagarre dans les toilettes. Alors, mais c'est là, il faut que je souligne grosse originalité. Parce qu'elle est complètement secondaire. C'est-à-dire que tu as la caméra qui commence à filmer une bagarre dans les toilettes entre des mecs qu'on connaît pas du tout. Puis ça panote à gauche. Et là, tu as nos héros, Pépouze, en train de discuter dans un coin de hacking. Quoi. Ça, je trouvais ça pas mal. Alors, tu as les chambres avec posters de groupe bien placés.
Nirvana.
Ouais, là entre autres on a ouais, Nirvana, Soundgarden, j'ai vu Parliament aussi. Donc en fait, en gros, que des trucs totalement opposés à ce qu'on a dans la BO. on a également évidemment le pote noir dont on ne retient jamais le nom et qui ne sert pas à grand chose. Y avait déjà un latino, donc j'imagine qu'ils se sont dit que c'était pas. Il fallait meubler un petit peu. Scène où les personnages parlent de trucs super chauds et super confidentiels, hyper forts dans une rame de métro. c'est un classique, ça c'est voilà.
Normal.
Ah, la scène de groupe live. Ça pouvait pas rater. En l'occurrence, là, c'est Urban Dance Squad. Là encore, pour la cohérence artistique, on repassera un peu. Moi, ça avait complètement oublié ce détail. J'étais là, genre, putain, mais Urban Dance Squad, qu'est-ce que ça fout là, quoi. Les mecs, pareil, les mecs ont dû les booker sous le nom. Ils se sont dit, ah, c'est bon, Urban Dance, ça va le faire.
Stéréo, M6.
Ouais. Il y a une poursuite dans un centre-ville, bon, voilà.
Ouais.
Et il y a un générique de fin avec chanson complètement en décalage par rapport à tout le reste de la BO, quoi. Tu sais, genre de truc un peu FM, Eric Clapton, quoi.
Oui, et, mais c'est parce que le héros vient de se pécho dans l'eau.
Ouais, voilà, quoi. Voilà. Et, non, mais du coup, voilà, bonne expérience. Je pensais pas revoir ce film un jour. Je me rappelle, mais il y a quelques temps, quand on s'est changé des messages pour d'autres épisodes, je t'avais dit, putain, j'y crois pas, ils ressortent Hackers en 4K.
Bah oui.
Et je t'avais fait envoyer un lien, je crois que c'est Shout Factory aux États-Unis qui le ressort. Mm-hmm. Et je me disais, oui, ça y est, on a franchi le Rubicon. En fait, chaque nouveau format est un prétexte pour pouvoir tout sortir. Et là, vraiment, quand on arrive à une société où il y a un 4K de hackers, c'est que tu sais qu'il y a un problème, quoi. Et ben en fait, ben finalement, je me dis, hey. J'irai pas jusqu'à l'acheter, mais là, je peux comprendre des fois.
Bah, en fait, oui, encore une fois, gif de Edouard Baird qui dit oui et non, oui. Parce que ouais, c'est une discussion que j'avais avec Sylvain Perret, qui était venu faire l'intégrale Jean-Yann, qu'on salue, qui travaille chez Gaumont, et notamment voilà, sur la restauration et l'exhumation de films, et qui me disait, il y a plein de films qui sont perdus. En fait, il y a énormément de films dont on n'a plus la trace et qu'on ne reverra jamais. Et quand tu vois certains, après c'est peut-être des opportunités, tu vois. Ils se sont dit allez.
Il y a des films aussi qui coûtent très peu cher à ressortir pour peu que voilà les gens aient les droits déjà depuis longtemps ou je ne sais quoi. Tout n'est pas les diables de Ken Russell, tu vois. Hélas, parfois.
Ouais. Bah, c'est. Oui. Bon, en plus, on travaillait sur le film il n'y a pas longtemps. Donc, voilà, Warner. Peut-être. Est-ce que Warner n'est pas le grand méchant de.
Peut-être.
De nos vies, finalement.
Mais en plus, je me suis rendu compte aussi que c'était finalement assez. Bon, le film n'est pas bon, mais ça restait assez agréable de voir que. On va dire les règles étaient respectées, si tu veux. C'est-à-dire que ça fonctionnait, il y avait vraiment les rebondissements, il y avait vraiment les tensions, la friction qu'il fallait. Même si tout est complètement à côté de la plaque. Mais par contre, c'est parce que ça, c'est un truc, j'ai l'impression que ça disparaît de certaines productions récentes, notamment les productions de plateforme, où on essaie de faire des teen movies où il n'y a plus aucun enjeu, en fait, quoi. Où il n'y a plus
tout
problème.
Est propre et tout est. Ouais. Rien ne dépasse. Voilà.
Tu vois, moi, en revoyant ce film, j'ai repensé à ce truc que, alors pareil, plein de gens ont adoré, j'ai pas compris, qui s'appelait Booksmart, qui avait des très bons personnages, mais où rien fonctionnait pour moi. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'on avait des lycéennes qui étaient un peu paria. Et qui en fait devenait pote avec tout le monde, mais immédiatement. Il y avait aucune genre ah lui je suis amoureuse de lui depuis des années, mais il est intouchable. Et hop première fête et bam ils discutent ensemble. Et t'es là mais ouais ok bon.
Ouais.
À un moment il faut, je sais pas. Il y a du combat à mener quand même.
Ouais, j'étais content parce que le teen movie c'est une Madeleine de Proust, un genre avec lequel j'ai grandi en étant très, très circonspect et que j'ai appris à aimer après en fait. C'est, j'aimais bien les teen movies quand je n'étais plus adolescent.
Ça dit, il paraît qu'il y a Bottoms là, c'est ça qui sort ?
Ouais.
Qui paraît qu'il est très bien dans le genre, donc à voir. Quoi.
Tout à fait.
Bon, après, c'est une prod cinéma donc c'est un peu différent.
On verra, mais Booksmart, j'étais plutôt content. Non, ce qui est vraiment synthétise tout ce qui ne va pas dans Hackers, c'est le personnage principal, qui est écrit pour être, finalement, un paria, puceau, mal à l'aise et en même temps génial, la figure du nerd archétypal, et il est joué par Johnny Lee Miller, qui est quelqu'un d'extrêmement beau, qui essaye de jouer le mec pas sûr de lui, mal à l'aise, et qui n'y arrive pas, en fait. Et alors que tous les dialogues essayent de le caractériser comme ça, et tu regardes, tu fais bah non, en fait, enfin, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, et tout le film est comme ça.
À revoir aujourd'hui, tu n'y crois pas une seconde, effectivement, à ce personnage. Quoi.
Ouais, donc bah, tu ne crois rien, en fait.
Bah, oui, de toute façon, comme on disait depuis tout à l'heure, mais lui, c'est vrai qu'il concentre beaucoup de défauts. Quoi.
Rien ne va, en fait. C'est-à-dire que La Peste, il y a aussi le personnage de Lauren Bracco. Il a une liaison avec Lauren Bracco et tu n'y crois jamais.
Ah oui, mais non, complètement pas. Quoi. En plus, ils couchent ensemble sur une espèce de hamac.
Oui,
hamac bon. Design géant. Enfin,
dans une cave virile de hackers. Voilà, dans une man cave de hackers des années 90.
Une cave virile.
Oui, ça, je sais traduire man cave. Non, non, et rien ne marche. Et puis, voilà, à chaque fois que j'entendais du Prodigy, j'avais des flashbacks des années 90. C'était...
Mais c'est vrai que c'est assez savoureux pour tous les détails qui te donnent envie de te gratter, quoi. Enfin,
ouais.
Bah, je sais pas, quand il rencontre ce hacker latino et que le mec fait « Je t'invite, il faut que tu viennes absolument à cette fête. » Et t'arrives à la fête, et en fait, la fête, c'est des gens qui roulent en roller... dans tous les sens, avec des jeux vidéo sur des écrans, mais qui sont 10 fois plus grands que ceux du Pâté Gaumont.
Et ils fument des clopes.
Ils fument des clopes, évidemment. Bon, ça, c'était encore...
C'était à l'époque.
Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un truc... C'est ce truc un peu, ouais, comme on disait, quoi, MTV, publicité, très très flashy, quoi.
Ouais.
Et en même temps, il y a déjà un petit côté un peu... Un peu terne. Enfin, en plus, il y a des trucs, moi je comprends même pas que ça soit passé. Enfin, en termes de direction artistique, effectivement, cette espèce de contraste gigantesque qu'il y a dans le lycée, par exemple, ça me fait vraiment fait tomber par terre. Je dis, mais c'est pas possible. On dirait un peu le lycée de Ferris Bueller et t'aurais, je sais pas, des personnages de Tron ou Mad Max ou Akira qui débarquent. Quoi. Et t'es là, genre, oh, il n'y a pas un problème. Hein.
Et qui ont tous 15 ans de trop, quoi.
Oui, ouais, voilà, 15 ans de trop. En plus, j'ai regardé sur IMDb, il y avait déjà des problèmes d'âge, effectivement, techniquement.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils avaient tous déjà environ dans près de 25 ans. Alors, j'ai oublié son nom, celui qui a la casquette à l'envers, qui est vraiment jeune pour le coup.
Jesse Bradford.
Ouais, Jesse Bradford. Lui, il avait vraiment 16 ans. Donc, ouais. il y avait vraiment des écarts pas possibles, quoi.
Écoute, on le verse en pièces à charge.
Ouais, voilà. De toute façon, cette série, ça va être essentiellement à charge, j'imagine.
Oui, oui, oui. Après, je sais pas, je me demandais, tu vois.
Il peut y avoir une surprise.
On va voir, mais il faut que ce soit vraiment quintessentiel des années 90.
Ah bah là, vraiment, voilà, si les gens qui l'ont pas vu, s'ils veulent se plonger dans les années 90... de la manière la plus clichée et saturée possible, celui-là est pas mal quand même.
Mais tu vois, je me demandais, on va s'interroger à voix haute quelques minutes encore, mais sur ce que va devenir cette nouvelle catégorie de podcast, c'est bah déjà faire de la musique aussi.
C'est-à-dire
tous les trucs qui m'ont cassé les couilles pendant les années 90, tu vois, The Will to Live de Ben Harper, Clandestino de Manu Chao, pourquoi pas.
Ouais.
Même Nirvana, mais j'aimais bien Nirvana.
Ouais. Ah mais moi j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'étais en plein dedans. Mais ce que je veux dire, c'est il y a tout un truc un peu critique, un peu analytique à faire autour, qui est super intéressant parce qu'en fait, bon, on va pas partir de celui-là, mais en fait, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses qui sont racontées aujourd'hui, qui sont en fait des simplifications extrêmement grossières de ce qui est vraiment passé, parce qu'en fait. C'est pas juste Nirvana qui a complètement changé la couleur du cheval, quoi. Il y a eu plein de choses juste avant et en même temps. Et
ouais.
Tout a participé à un truc. Et effectivement, oui, il y a beaucoup de choses à raconter, ça c'est sûr. Sur Nirvana, clairement, quoi. Après, ouais, c'est, même sur l'horrible revival punk de 94, hein.
Oui.
Green Day,
oui.
Offspring, il y a des trucs super intéressants à raconter, ouais, c'est sûr.
Faisons le dit d'Offspring.
Ouais, le dit d'Offspring. Alors moi, je suis pas allé plus loin que les deux premiers albums.
Ouais, non, j'ai pas eu le choix. Ouais. Ah ouais, tu vois, je me demandais en film Strange Days de Catherine Bigelow, qui est un film que j'adore.
Surtout quoi, j'y ai pensé pas mal en regardant Hackers, forcément.
Bah oui, c'est un film qui est tellement années 90, qui est tellement dans son jus.
Ah
tu
oui,
vois, en termes de direction artistique, de musique, de...
Ah oui, là, il y a vraiment... Bah, c'est pas... En fait, Strange Days, c'est un peu une version de Hackers beaucoup plus friqué, beaucoup plus friqué et beaucoup plus avec une visée un peu plus blockbuster, international, sérieux, quoi. Parce qu'en fait, on retrouve à peu près tous les éléments, mais d'une version adulte et puis dans une version un peu plus réfléchie, quoi. Même si, voilà, pareil, eux, la séquence live, c'est Skunk Anansie, qui n'est pas très inspiré non plus, quoi.
Bon, très, très 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 belles anecdotes en perspective. Non, ouais. Strange Days, bah écoute, voilà, on fera Strange Days après.
Ouais. On peut-être attendre, là, parce qu'on a beaucoup d'ordinateurs. On peut-être, peut-être faire un truc un peu plus... tu vois, un peu plus désertique, un peu plus minimaliste, un peu plus français, peut-être.
Ou à l'Artley. Ah, qu'est-ce que j'ai pas dit.
À l'Artley. Alors ça, pareil, il y a un gros audit à faire. Un gros, gros audit. Ouais. Qui est pas... Enfin, ouais, on fera en temps voulu.
Oui, oui, oui. Bon, on se mettra une partie de la communauté cinéphile ado, mais on aime bien.
Ouais, on est là pour ça aussi.
Bon, un grand merci à toi en tout cas, et puis à tout vite.
À très vite, ciao.
Pirater la planète!
Pirater la planète!
Ouais!
Pirater la planète!